Meeting des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey, François Gagnon du Réseau des sports, collaborateur également au 98.5, qui est un assidu de ces rencontres-là. On l'y retrouve en Géorgie à l'instant même. Bien le bonsoir, François.
Salut, Mario.
Alors, est-ce que c'est le cap salarial, l'expansion vers Seattle ou un autre sujet qui retient l'attention devant tous les autres sujets, François, aujourd'hui?
Ah, ben écoute, c'est sûr que c'est l'expansion. Là. C'est Seattle, l'arrivée imminente de Seattle. On devrait voter demain matin pour entériner le projet. Là. Tu sais que la Ligue a besoin de 24 votes positifs pour aller de l'avant avec l'arrivée d'une 32e équipe. J'ai vraiment l'impression que ça va être un vote unanime parce que un va pas sans l'autre. Tu parles de plafond salarial. Les projections de hausse du plafond le placent à 83 millions de dollars la saison prochaine. Donc, une hausse d'à peu près 3 500 000. Ça a l'air pas beaucoup, mais c'est énorme pour des équipes comme Toronto, comme Tampa Bay, qui ont des jeunes joueurs là, qui arrivent et qui vont frapper à la porte de contrats faramineux. Donc, ça peut permettre à ces équipes-là de les garder. Et si le plafond monte, ben c'est évidemment en partie à cause de l'expansion. Las Vegas a donné 500 millions il y a 2 ans. Seattle va donner 650 millions. C'est de l'argent à pas pourrir pour obtenir le droit de faire son entrée dans la Ligue nationale de hockey. Donc, les finances vont bien et c'est la raison pour laquelle le plafond monte. Je te rappelle que le premier plafond était de 39 millions quand on a commencé ce système-là et qu'on va fracasser allègrement la barre des 80 la saison prochaine.
C'est assez ahurissant comme progression, c'est spectaculaire. Et dis-moi, les équipes du dernier tiers financier de la Ligue, pas toujours en termes de performance, est-ce qu'il y en a qui commencent à grimacer de voir le plafond augmenter, même s'il y en a qui souhaitaient qu'il augmente encore plus vite que ça?
Ben, écoute, pour le moment, non, mais... ce qui les aide, ces équipes-là, c'est qu'il y a des clubs qui, à un moment donné, ils ont de l'argent plein poche, mais ils ont de la misère à respecter le plafond parce qu'ils ont donné des contrats trop élevés à certains joueurs. Donc, ça va mettre en disponibilité d'autres joueurs intéressants. Et quand tu regardes les fluctuations au niveau du classement, au cours des dernières années, tu sais, les Devils qui sont passés de la cave aux séries l'an passé, le Colorado, la même chose. Regarde ce qui se passe avec Buffalo, qui était dernier l'an dernier, qui est la saison dernière et qui est dans le portrait des séries cette année. Donc, il y a moyen de sortir du marasme sportif assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont dans un marasme financier. Du côté d'Ottawa, ça ne va pas bien, on le sait. Pas juste sur le plan financier, mais le plan du building, les poursuites. Gary Bettman a d'ailleurs dit là, qu'il était préoccupé par ce qui se passait.
Ah oui?
Pas inquiet, mais déçu de ce qui se passe. Il suit le dossier. Imagine-toi que Eugène Melnyk n'est même pas ici à la réunion. C'est donc Gary Bettman qui a été obligé de présenter une espèce de compte-rendu de la situation. La poursuite de 700 millions de dollars d'Eugène Melnyk contre certains de ses partenaires dans le projet de Rendez-vous le Breton. Là. C'était le projet pour ériger un nouvel amphithéâtre là-bas et avoir un développement pas résidentiel, mais commercial autour du building. En fait, il y avait du résidentiel aussi. Donc, ce dossier-là semble mort pour le moment. Et d'ailleurs, le groupe qui était opposé au groupe de Melnyk il y a 2 ans, quand la commission de la capitale nationale a pris sa décision, ben ce groupe-là, on l'a vu dans le quotidien Ottawa Citizen ce matin, a dit « Hey, si ça va, ça vous tente, si jamais Rendez-vous le Breton, ça marche pas, nous, on est encore intéressés de nous associer au projet de nouvel amphithéâtre sur les plaines de Breton. » Donc, ça va pas bien à Ottawa. Ça va pas bien en Arizona non plus. On le sait qu'on a besoin d'un amphithéâtre là-bas. Andrew Bowrey, qui est le propriétaire majoritaire en Arizona, cherche des investisseurs, des partenaires, parce qu'on a besoin d'un amphithéâtre. On est locataire au Gala River Arena. Ça, c'est bien beau, mais on n'a pas de domicile. Et en passant, l'Arizona, c'est le club qui va glisser dans la division centrale. Si Seattle ou quand Seattle, je devrais dire, parce qu'il n'y a plus de si, là, mais lorsque Seattle va faire son entrée, il semble acquis là, que c'est les Coyotes qui vont s'en aller dans la division centrale. Et si jamais ça ne fonctionne pas en Arizona, ben, il y a Houston qui est disponible. Puis Houston, ben, ça serait géographiquement intéressant pour la division centrale aussi.
Le dernier déménagement, ben, c'est Atlanta vers Winnipeg. En vois-tu un autre survenir dans un avenir à court terme?
À court terme, non. J'en vois pas. Ben, en fait, faut pas jouer sur les mots, là. Les Islanders de New York vont déménager. D'ailleurs, ils ont commencé là, à charrier des boîtes là, de Brooklyn jusqu'au Nassau Coliseum, puis ils vont s'en aller à à quoi, à 10 minutes d'auto là, au parc Belmont Stakes, où il y a les courses de chevaux. Donc ça, ça va être un déménagement, mais on ne changera pas de ville. Les Panthers de la Floride, si vous regardez des matchs, là,
c'est épouvantable. Des bancs vides, hein?
Oui, c'est épouvantable. Il y a des bancs vides, mais à cause de l'entente qui est intervenue il y a 2 ans entre les Panthers de la Ligue nationale et Broward County, ça fait mal au cœur de voir des gradins vides, mais ça fait pas mal dans la poche des propriétaires des Panthers. C'est sûr qu'ils feraient plus d'argent s'il y avait du monde, mais ils sont pas à l'agonie financière à cause de ces bancs vides-là, du moins pour une période encore de 7 à 8 ans.
Mm-hmm.
Alors, quand tu me disais à court terme, j'en vois pas de relocalisation à court terme à part Arizona, mais pour moi, Arizona, c'est déjà tout écrit dans le ciel qu'ils vont s'en aller à Houston, parce que là-bas, tu as le Toyota Center, les Rockets de Houston de la NBA, le propriétaire Tillman Fertitta qui a dit, moi, s'il y a une équipe de la Ligue nationale qui est disponible, dites-moi où j'envoie mon chèque, puis je peux même payer cash, si vous voulez, parce que lui, il vient de payer 2,2 milliards, pas des millions, là, des milliards pour l'équipe de basket et son amphithéâtre, fait que il y a juste besoin d'appeler la banque pour dire, bon, on va faire un petit transfert à Gary Bettman, puis le dossier va être réglé.
Ça devrait pas être tellement compliqué. Bon, pour Seattle, tout le monde les voit arriver jouer leur premier match la saison 2020-21, c'est ça? Rapidement sur ça, François?
Ben, c'est ce qu'ils voudraient. C'est ce que les propriétaires voudraient. D'ailleurs, ils vont présenter leur dossier demain matin en disant, donnez-nous l'équipe, oui, puis on veut commencer en 2020-2021. La Ligue nationale est réticente un petit peu, parce que comme c'est là, le projet de reconstruction, on dit qu'il pourrait être une semaine ou deux en retard à l'automne 2020. Mais une semaine ou deux de retard à cette époque-ci, rendu en 2020, ça pourrait être 2 mois.
Mmh.
On l'a vécu hein, au Québec, on le sait, c'est quoi les retards d'un chantier. Donc, la Ligue nationale veut éviter ça. Et il y a toujours le spectre d'un lockout en 2020 qui plane. Donc, la Ligue nationale va donner l'aval au projet de Seattle. Mais la seule question, c'est de savoir si ça va être 2020 ou 2021.
Est-ce que Gary peut se garder comme outil de négo de l'entrée en scène de Seattle par rapport à sa convention collective ou c'est pas un enjeu?
Non. Non, moi, je vois pas ça.
C'est une formalité plus que d'autres choses.
C'est une formalité plus que d'autres choses. Puis les joueurs ont tout intérêt à ce que ça entre. Là. Ça fait des jobs de plus et ça fait monter le plafond salarial. Donc, tout le monde gagne là-dedans.
Est-ce moins à court terme. Le Canadien Jeff Molson, MLSC, les propriétaires des Leafs de Toronto, là, ou surtout même Winnipeg et Toronto qui sont dans une situation où ils vont voir des gars, on vient de voir le dossier Nylander, là, il y aura beaucoup de gros contrats signés prochainement. Eux autres, est-ce qu'ils trouvent que le plafond monte assez vite de le voir bondir à 83 l'an prochain?
Ben, tu vois, Winnipeg, Tampa, ce que je te disais, Toronto, avec Marner, avec Matthews, c'est sûr que ces équipes-là, ça fait leur affaire. Et ces équipes-là avaient besoin d'une hausse du plafond.
Oui, vraiment. Hein?
Donc, tout va être le bienvenu. Puis, tu sais, tu disais tantôt qu'il y a peut-être des clubs qui n'aiment pas ça, voir le plafond monter. À Toronto, puis à Winnipeg, parce que oublie jamais qu'il y a une fortune personnelle là, en arrière des Jets de Winnipeg. Montréal, Toronto, des clubs comme ça, puis même à Tampa Bay. Le plafond peut continuer à monter, puis les propriétaires vont être prêts à payer. Ça les dérange pas du tout. Ils ont les poches pleines là-bas aussi.
Ben François, je pense que ça fait pas mal le tour, à moins qu'il y ait d'autres sujets qui soient passés sous le radar que tu voudrais nous partager en toute fin de conversation.
Oh, il y a la Coupe du Monde. Il y a peut-être le dossier de Coupe du Monde. Tu sais, il y a eu la première expérience à Toronto il y a 2 ans.
Ouais.
Il faudrait en avoir une. Mais ce qui est clair, c'est que l'association des joueurs se fait tirer la patte un petit peu dans les négociations. Et ce que Bettman a dit, si on n'a pas de confirmation par l'association des joueurs autour du match des étoiles là, qui va être à la fin janvier à San Jose, ben le projet d'une Coupe du Monde en 2020 va être écarté. Mais s'il y a une Coupe du Monde en 2020, et que les joueurs disent oui, ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de lockout. Alors, un va pas sans l'autre. Alors, c'est bien évident que Bettman pousse pour avoir la Coupe du Monde et avoir la paix syndicale. Et du côté de l'association des joueurs, on a raison d'attendre parce que c'est une carte de plus dans leur manche pour essayer de mousser les négociations à leur faveur.
Ben François, merci beaucoup. Merci beaucoup de ce résumé pas mal complet sur ce qui s'est discuté aujourd'hui. On se reparle prochainement sans aucun doute.
Certainement, toujours un plaisir.
Merci François. François Gagnon d'RDS et collaborateur 98.5 et aux amateurs de sport. Dans un instant, Stéphane Leroux nous dit combien de joueurs obtiendront une chance de jouer pour Équipe Canada Junior et est-ce que ce sera des joueurs d'impact?